Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Tosserie.
La charte des droits de la famille à 30 ans, rédigée par le Conseil pontifical pour la famille, elle garde toute son actualité dans nos sociétés contemporaines occidentales. On en parle en ouverture du magazine. Internet et l'Église, c'est le thème de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour les communications sociales qui se tient ce jeudi et ce vendredi au Vatican. L'apparition d'Internet a bouleversé nos sociétés. L'Église n'est pas insensible à ce phénomène. Et puis rentrée politique mouvementée au Québec, le projet de modification de la charte des valeurs présenté par le gouvernement indépendantiste de la Belle Province soulève de nombreuses opposition. Décryptage dans quelques instants. Bienvenue dans ce magazine. La charte des droits de la famille à 30 ans, rédigée par le Conseil pontifical pour la famille, elle garde toute son actualité dans nos sociétés contemporaines occidentales, à l'heure où de nombreuses familles s'inquiètent des politiques publiques. Le Conseil pontifical organisait ces jours-ci à Rome un congrès international sur le thème « Les droits de la famille et les défis du monde contemporain » pour montrer notamment l'ampleur des défis. Compte rendu d'Olivier Bonnel.
Depuis 30 ans, le monde a changé, mais la famille reste un bien précieux à préserver. L'Église veut rappeler, à travers sa charte des droits de la famille, que ces droits essentiels touchent à la société dans son ensemble et ne sauraient donc être ignorés des législateurs. La famille est un thème universel et une structure fondatrice, rappelle Mgr Vincenzo Paglia, le président du Conseil pontifical pour la famille.
C'est nécessaire de comprendre que la famille, c'est la première communauté, le premier « nous ». Où nous apprenons à vivre ensemble, où nous apprenons à être à côté l'un de l'autre, où nous apprenons à se pardonner, où nous apprenons à regarder le futur. Alors c'est toute une culture qui va se créer de la famille pour l'ouverture à la société.
La charte des droits familiaux est présentée par le Saint-Siège comme un outil à destination des gouvernements chargés de veiller sur le bien commun. Pour le Conseil pontifical, il est important que la culture contemporaine mette à disposition des moyens de communication sociale au service de la famille afin qu'elle soit reconnue comme un élément positif pour la construction de la société. Mais les embûches sont nombreuses dans un monde où l'individualisme est souvent une norme devant laquelle les politiques sont tentés d'abdiquer. Mgr Paglia.
Quelquefois, c'est un manque de courage. Plusieurs fois, il manque de vision. Manque une vision culturellement profonde de la société dans son futur. Quelquefois, les lois sont prises seulement sur l'urgence du moment. Une urgence peut-être électorale, quelquefois économique, quelquefois politique. Mais s'il n'y a pas une vision, alors cette myopie législative va être dangereuse pour la société même.
Les changements culturels ont été profonds ces dernières années, qui ont conditionné l'action publique. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés n'ont pas de réelle politique familiale intégrante. On valorise ainsi, par exemple, les droits de la femme, mais hors de la structure familiale. C'est ce que déplore Hélène Marie Alvarez, professeure de droit à l'université George Mason de Washington.
La loi n'assiste pas la femme avec le travail et la famille ensemble. Ou avec mariage. La loi particulièrement n'assiste pas les femmes pauvres dans les États-Unis et dans les autres pays quelquefois. Les gouvernements et les associations, les coopérations n'ont pas les policies pour la femme. Il est demandé de la femme, vous devez agir comme un homme sans les enfants.
30 ans après la rédaction de la Charte des droits de la famille, l'Église souhaite faire savoir à la communauté internationale qu'elle a son mot à dire plus que jamais sur la famille, car c'est là qu'elle défend aussi les plus pauvres.
La richesse était le thème central de l'homélie du pape lors de sa messe quotidienne dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe au Vatican. Il y a dénoncé clairement l'idolâtrie de l'argent ce vendredi. On ne peut pas se prétendre catholique pour correspondre à un certain statut, a affirmé le pape. Le choix de la voie de l'argent, a averti le pontife, transforme en corrompu L'argent te séduit, a-t-il dit, pour te faire glisser lentement vers ta perdition. L'argent t'offre un certain bien-être au début, bien, puis tu commences à te sentir important et la vanité arrive. Il y a trois marches, la richesse, la vanité, l'orgueil. C'est ce qui rend les personnes maniaques des choses oisives, a ajouté François. Aux yeux du pape, l'avidité envers l'argent est la racine de tous les maux. Il s'agit d'une véritable tentation du démon, a-t-il estimé, rappelant que les premiers pères de l'Église considéraient l'argent comme le spectre du diable. Le pape François, qui s'est adressé ce vendredi matin aux membres de la Fédération internationale des associations des médecins catholiques présents à Rome, il les a mis face à ce qu'il considère comme une situation paradoxale. D'une part, les progrès de la médecine grâce au travail des scientifiques. D'autre part, le danger auquel font face les médecins, perdre leur propre identité de serviteurs de la vie. Bien qu'étant par leur nature au service de la vie, les professions sanitaires sont parfois induites à ne pas respecter la vie elle-même, selon François. L'attention à la vie humaine dans son ensemble est devenue ces derniers temps une vraie priorité du magistère de l'Église. À la lumière de cette réflexion, le pape a invité les médecins catholiques à être des témoins et des diffuseurs de cette culture de vie. Il les a invités aussi à contribuer à reconnaître dans la vie humaine la dimension transcendante, l'empreinte de l'œuvre créatrice de Dieu depuis le premier instant de sa conception. Internet et l'Église, c'est le thème de l'Assemblée plénière du Conseil pontifical pour les communications sociales qui se tient ce jeudi et ce vendredi au Vatican. L'apparition d'Internet a bouleversé les rapports entre individus, entre ces derniers et les institutions, sans parler de l'économie et de la société. L'Église n'a pas échappé à ce phénomène mondial qui ne cesse de se répandre au fur et à mesure que les populations se connectent à la toile. Le Conseil pontifical pour les communications sociales en pointe sur ce sujet réfléchit donc à comment développer sa présence sur Internet, comment établir de nouvelles relations entre elles et les fidèles et comment, en somme, s'adapter à ce qui est devenu plus qu'un simple outil de communication. Les précisions de Xavier Sartre.
À l'heure d'Internet, d'un flux continu d'informations en un temps toujours plus court, d'une multitude d'acteurs et de sources, la manière dont communiquait l'Église a dû être repensée. Sa mission demeure identique, dialoguer respectueusement avec tout le monde et notamment ceux présents sur la toile numérique. Et cette communauté d'internautes est toujours plus nombreuse au niveau mondial. Pour Mgr Celli, président du Conseil pour les communications sociales, c'est donc une opportunité pour faire passer le message de l'Évangile, mais c'est aussi un problème.
Notre problème est d'être là et de témoigner ce que nous avons dans notre cœur. Et le problème est de savoir employer un langage que l'homme et la femme d'aujourd'hui peuvent comprendre. Et là est le défi. Un langage qui n'est pas seulement un problème de vocabulaire, c'est toute une dimension anthropologique. Et savoir quelle est l'histoire de leur vie, quels sont les problèmes, les souffrances, les désirs, les angoisses, leur chemin de la recherche de la vérité, d'un sens à leur vie. Là est le problème de la communication de l'Église.
C'est donc un formidable défi que l'Église relève déjà depuis plusieurs années, avec un certain succès quand on pense aux tweets du pape largement suivis, notamment par les anglophones et les hispanophones. Au-delà de cet exemple, force est de reconnaître que certaines régions du monde restent en marge de ce développement numérique. L'Afrique pâtit des coûts de connexion et du fait qu'elle n'a pas assez droit à la parole sur la toile. Pour le père Janvier Yameogo, responsable au Conseil pontifical pour les francophones, il faut aussi faire un effort de traduction.
Pour une plus large diffusion, il faut pouvoir transcrire, traduire dans les différentes langues. Un pays comme le Cameroun, qui est francophone-anglophone, compte plus de 250 groupes ethniques différents, avec des langues différentes. Donc il faut pouvoir se faire comprendre aussi de ces gens.
Mais le père Janvier est confiant, d'autant qu'il existe, selon lui, une longue tradition de réseau en Afrique, établissant un parallèle entre les messages envoyés via les tam-tams d'un village à un autre et les tweets et autres messages des réseaux sociaux. Il estime que les Africains ne sont pas à la remorque.
Au niveau anthropologique, la réalité reste la même. Il y a l'accélération sociale qu'apportent les technologies, mais au niveau anthropologique, il y a le problème fondamental qui est de redonner confiance aux Africains à eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est un des premiers rôles de l'Église, d'aider les Africains à se réconcilier avec eux-mêmes, avec leur propre culture, et ainsi de pouvoir être fiers et se sentir orgueilleux de leur tradition, des éléments positifs qu'ils peuvent y trouver et pour le partager avec le reste du monde.
Pour l'Église, s'adapter à Internet est donc primordial. Au Conseil pour les communications sociales, on a bien conscience que ce qui est plus qu'un outil remet en cause les rapports établis jusque-là entre l'Église et les fidèles, même si la mission demeure la même, annoncer la bonne nouvelle.
Si nous ne saurons pas éduquer à une vraie écologie humaine, nous ne serons pas les prophètes d'une écologie environnementale responsable. Écologie humaine et écologie environnementale semblent aller de pair. La protection de l'environnement, dont à préserver et administrer avec sagesse, est avant tout la protection de l'homme contre son autodestruction. Les questions relatives à la sauvegarde de la création sont strictement liées au thème du développement intégral de la personne humaine. C'est ce qui ressort du séminaire promu au Luxembourg par la commission Caritas in Veritate du Conseil des conférences épiscopales d'Europe. Reprenant le parcours de ces dernières années, cette rencontre a été une occasion pour l'épiscopat européen d'approfondir son engagement en faveur de la sauvegarde de la création à la lumière des nombreuses interventions du pape François qui ne cesse par son magistère d'appeler les chrétiens à cette responsabilité. L'attention de l'Église pour les thèmes de la création n'est pas nouvelle, elle est bien ancrée aux échelons national et local et nombreuses sont les initiatives réalisées au niveau diocésain et paroissial. Toutefois, un défi éducatif apparaît, renouer avant tout les relations entre la créature humaine et son créateur. Là où ces relations font défaut, la création n'est plus qu'une matière à posséder et le but de l'existence humaine, ou même d'une nation, se limite à sa capacité de posséder le plus possible, même au prix d'injustice et de conflit. Conflit justement, conflit en Syrie, dans une ville d'Alep assiégée, la guerre touche également les églises. Ainsi que l'indique à l'agence Fides, Mgr Clément Jean-Barre, archevêque melkite d'Alep, dans la nuit de jeudi à vendredi, deux tirs de mortier ont endommagé le siège de l'archevêché gréco-catholique. Il n'y a pas eu de victime, seulement parce que les tirs ont eu lieu de nuit. L'archevêque affirme, la ville est étranglée, la situation empire de jour en jour. En tant que résidents, nous nous sentons pris au piège et nous ne savons pas quel sera notre destin. Les marchandises manquent ou atteignent des prix très élevés. Les gens ont des problèmes pour survivre au quotidien. C'est pourquoi, poursuit l'archevêque, les fidèles continuent à s'enfuir. L'exode se poursuit et ses effets se constatent également sur les côtes des nations européennes. Depuis 2 ans, nous offrons aux fidèles consolation et soutien moral, mais plus le temps passe et plus il devient difficile de les persuader à rester, continue Mgr Jean-Barre. Et pourtant, nous, chrétiens en Syrie, avons une mission, celle du dialogue, de la paix, de la réconciliation, de la conservation de la lumière, de la foi, de l'espérance et de la charité. Et nous voulons être fidèles à cette mission, conclut l'archevêque melkite d'Alep. Rentrée politique mouvementée au Québec, le projet de modification de la charte des valeurs présenté par le gouvernement indépendantiste de la belle province soulève de nombreuses oppositions. La nouvelle législation prévoit en effet d'encadrer le port de signes religieux ostentatoires pour les employés de la fonction publique. Avec cette charte des valeurs revisitée, mais loin de faire l'unanimité, le gouvernement de Pauline Marois entend promouvoir la laïcité à la française. Plusieurs milliers de personnes, dont de nombreux musulmans, ont manifesté contre un projet jugé raciste et discriminatoire et qui, selon eux, porterait atteinte au pluralisme québécois. Les évêques catholiques ne cachent pas non plus leur réticence et demandent des précisions au gouvernement. Nous avons joint Mgr Pierre-André Fournier, évêque de Rimouski et président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec.
Nous avons des sérieuses questions par rapport à imprécise de ce que sera la laïcité ou neutralité. On semble un peu aussi utiliser les deux mots dans un même sens. Et ce qui est proposé semble vouloir aller vers une neutralité qui, au lieu d'être ouverte aux religions, viendrait restreindre les droits religieux. Alors pour nous, c'est là que le bas blesse le plus, qui est le plus sérieux. Lorsque vient l'idée des signes ostentatoires, c'est seulement la pointe de l'iceberg. Parce que une neutralité qui serait fermée, qui restreindrait certains droits qui existent déjà, apporterait des conséquences très sérieuses par rapport à notre histoire ici au Québec. 400 ans d'histoire où l'Évangile a eu une place très importante, où il y a des traditions qui nous portent encore. Et nous sommes pour un patrimoine non pas figé, mais un patrimoine qui est un souffle pour l'avenir. Concrètement, suite à cela, dans nos échanges qu'on a eus au cours des derniers jours, parce que c'est le temps de notre assemblée annuelle d'automne, nous ne sommes pas d'accord avec ce projet de limiter ou d'enlever les signes ostentatoires pour les personnes qui travaillent dans le domaine public, sauf pour quelques exceptions pour des postes précis. Là.
Alors, les promoteurs donc de cette modification de cette charte des valeurs entendent promouvoir justement une laïcité à la française, ce sont leurs mots. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bien, lorsque on parle d'une laïcité à la française, bon, on ne connaît pas tous les contours, mais je pense qu'il faut viser une laïcité à la québécoise. Parce qu'il y a des choses qui se passent en France, qui ne se passent pas ici. Entre autres, le soutien à plusieurs églises par l'État en France. Ici, on n'a rien de cela. Il y a aussi beaucoup plus d'institutions privées, d'universités privées catholiques en France. C'est ce qu'on n'a pas ici. Et Strasbourg et l'Alsace ont une manière de faire extrêmement différente. Alors, je pense qu'en France, c'est extrêmement diversifié également. Alors, de regarder de l'autre côté de l'Atlantique, comme ça, c'est un petit peu vite comme jugement. Nous, on préfère une laïcité vraiment québécoise qui tient compte de notre histoire et aussi de bâtir ensemble.
Les évêques québécois avaient publié une lettre fin 2012, « Le catholique dans un Québec pluraliste ». Vous évoquiez notamment donc la place, le rôle du catholique, des catholiques, dans un Québec multiculturel et pluraliste. Donc, justement, quelle doit être cette place, la place du catholique dans un tel contexte?
D'abord, pour nous, ce document nous sert beaucoup actuellement dans nos discussions, nos échanges. C'est vraiment un document qui a été préparé de longue date. Alors, la place du catholique, c'est vraiment d'abord d'être fier de son histoire et ne pas, en raison de tout ce qui arrive dans notre société, les différents courants, bien de ne pas quitter, dire comme dans l'Évangile, le Seigneur dit « Allez-vous nous quitter vous aussi » dans une période qui demande beaucoup d'exigence et de force. Eh bien, on suggère que à travers tout cela, tout en étant ouvert aux autres, vraiment de continuer cette vie avec le Christ.
Dernière question, est-ce que vous appelleriez les catholiques à manifester d'une manière ou d'une autre, pas forcément dans la rue, peut-être leur réticence, voire leur opposition à cette modification de cette charte des valeurs?
Bien, on a déjà demandé aux catholiques de communiquer avec leurs députés et vraiment de faire valoir leur point de vue là-dessus. Pour le moment, on ne pense pas à des manifestations, parce que nous sommes dans une période où c'est un projet de loi. Nous espérons qu'il va être bonifié. Ça semble même vouloir aller dans cette ligne-là, parce que plusieurs s'opposent à certaines parties de ce projet de loi. Donc, pour le moment, c'est là où nous sommes.
C'est avec cet entretien réalisé par Manuela Effigy que prend fin ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Plus de précisions sur notre site internet www.radiovaticana.va ainsi que sur notre page Facebook Radio Vatican en français.